théâtre d'Edmond Morel.
Alors, c'est une histoire de Viera Gran. C'était une chanteuse polonaise juive qui était une vedette dans le ghetto de Varsovie. Et puis après la guerre, elle a été accusée de collaborer avec les Allemands. Voilà, c'est l'essentiel.
Alors maintenant, on va parler de l'histoire de ce livre. Je disais qu'il était difficile de le qualifier parce qu'il est à la fois un livre très personnel, celui qui est le roman de votre rencontre avec Viera Gran, que vous avez rencontrée en 2003, si je me souviens bien. Oui. Elle était déjà une femme âgée, elle vit à Paris, et elle est avec le souvenir tragique de ce qu'elle a vécu et de ce qu'on a dit d'elle.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment qualifier ce livre. Pour moi, c'était une rencontre très, très personnelle avec cette femme. Et j'ai entendu parler d'elle il y a peut-être 15 ans, à Paris, où elle a vécu pendant des années après la guerre. On m'a dit que, voilà, il y a une chanteuse des ghettos de Varsovie, un collabo. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, être juive et collaborer avec les Allemands? Ça me paraît un peu bizarre, très intéressant. Et comment c'était possible que 50, 60 ans après la guerre, quelqu'un se souvient de ça et en parlant de cette femme, utilise le mot collabo. Alors voilà, je me suis rendu compte que ça peut être un sujet pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, le ghetto, c'est mon point de référence très important. Parce que ma mère est juive, elle a passé, elle avait 10 ans quand elle a été dans les ghettos de Varsovie avec sa mère et toute la famille qui était morte depuis. Alors, je me suis dit, voilà, c'est pour moi encore une autre possibilité d'entrer dans les ghettos de Varsovie. Maintenant, pas avec ma mère, la petite fille, mais avec une femme aussi jeune, mais une femme célèbre d'avant la guerre, qui a décidé de n'est pas quitté sa carrière dans le ghetto pendant la guerre. Elle a décidé d'être vedette là-bas. Et ça m'a paru aussi, quand je pensais de ça, le ghetto, ça veut dire la ville de mort, de la mort. Et le ghetto, ça veut dire la ville dans la ville, à Varsovie. Et il y avait le mur de 3 mètres et les Juifs étaient enfermés là-bas. Alors, comment c'est possible que, je me suis demandé à l'époque, qu'il y a la vie là-bas, mais la vie, vraie vie, avec le café, les restaurants, le théâtre, il y en avait plusieurs, un orchestra aussi, la vie. Alors je me suis dit, j'ai compris que les Juifs, ils ne savaient pas encore qu'est-ce qui va se passer. Et ils voudraient vivre, survivre. Comme ça, il y avait la vie ordinaire. Alors il avait faim du pain, mais aussi il avait faim de l'art, de la musique, de la littérature, un peu quand même. Quelqu'un qui a survécu m'a dit que la musique était beaucoup plus importante pour eux que le bouquin, le livre. Alors voilà Viera qui décide de chanter, de poursuivre sa carrière d'avant la guerre. Ben alors elle chante dans un café qui s'appelle Café Stuka, l'art, une boîte très très populaire et très connue dans les ghettos, rue Leshno, on dirait la rue principale de Broadway juif à Varsovie. Ben voilà, elle était belle, elle était jeune, elle avait 25 ans. Elle a chanté pour la publique. Qui était sa publique? Alors, il faut se demander, parce que la rumeur de la collaboration vient de ça aussi. Qui pouvait se payer pour venir dans un café, dans le ghetto? Il fallait avoir de l'argent. Peut-être un peu d'argent pour avoir juste un thé ou plus d'argent pour boire de la vodka ou de la champagne. Il y avait tout là-bas. Oui, il y avait le riche des ghettos de Varsovie. Et de temps en temps, les Allemands venaient là-bas. Et elle a chanté. Alors,
et aussi des Polonais qui ne vivaient pas dans le ghetto, si
oui,
j'ai bien
aussi,
lu,
hein,
qui
oui.
venaient de Varsovie par goût de la musique. Ça, c'est aussi quelque
elle.
Chose qui est, qu'on découvre dans le roman, dans le livre. C'est peut-être pour ça que c'est un roman, parce qu'on découvre le côté sensible de la vie, du vécu dans le ghetto de Varsovie. C'est un peu comme si le point de vue de l'écrivain que vous adoptez nous permettait de nous mettre à la place du contemporain de l'histoire.
Oui, c'est ce que je voulais. C'est comme ça que j'écris ces livres, parce que pour comprendre Vera Grahn et tout ce qui se passait avec elle, il faut entrer dans le ghetto, il faut y être avec elle, une jeune femme, je suis une jeune, belle, visible partout. Pour certains de ses contemporains, ce n'était pas évident.
On pourrait dire que cette volonté qu'elle a eue de vouloir rester jeune, belle, attrayante, artiste, est ce qu'on lui a reproché lorsqu'elle a survécu. C'est finalement un roman sur le drame de la survivance que vous avez écrit aussi.
Absolument. Et ceci, je me posais la question, quel est le prix de survie ? Comment elle a fait de survivre, comment elle a fait les autres. Il faut dire aussi que c'est elle et Władysław Szpilman, le pianiste, c'était les deux qui ont survécu.
Szpilman, on le rappelle, c'est le fameux pianiste dont Roman Polanski a tiré un film de la biographie.
Voilà. Alors, c'était les deux qui ont survécu, deux artistes des Cafés Stuka, c'est tout. Et ils ont perdu les uns et les autres leur famille complètement. Alors, le deuil, ils ont survécu. Alors, c'est aussi intéressant ce qui se passe après la guerre avec les deux artistes qui ont survécu. Et aussi, je me demande comment, et je décris ça d'ailleurs, comment le passé pèse après pour Vera Grahn. C'était incroyable. Elle a été accusée, elle a été innocentée en Pologne après la guerre. Et puis pendant toute sa vie, ces accusations l'ont suivie. Partout dans le monde entier, pas seulement en Pologne, qu'elle a quittée en 1950, mais aussi après en Israël, à Venezuela, aux États-Unis, etc., etc. C'est quand même incroyable.
Alors qu'il faut bien le préciser, elle a été lavée de tout soupçon, elle a été innocentée de tous les soupçons de collaboration. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire aussi et qu'il faut connaître lorsqu'on lit votre roman. Il y a un moment charnière dans votre roman, c'est le moment de cette rencontre où elle retrouve Szpilman, elle vient vers lui et Szpilman lui dit « mais tu es encore vivante », comme il lui dit ça comme un reproche, et c'est, on a le sentiment dans le roman, dans le livre, que c'est là où tout bascule, qu'il y a une autre vie qui débute, qui est la vie de la mémoire, de la rumeur, de la suspicion, qui rend finalement la vie, la survie de cette femme un véritable enfer.
Insupportable, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était le moment très très important, crucial. Mais je dois aussi souligner que c'est l'histoire de Vera. C'est Vera qui m'a raconté cette histoire. Et je suis persuadée que l'histoire de Szpilman, tant qu'il le raconte lui, est différente. Alors voilà, c'est Vera a dit que ça s'est passé comme ça. C'est elle qui dit que c'était lui qui lui a transmis cette information. Il était dans la radio polonaise déjà en 1945. Elle est venue et elle voudrait travailler. Lui, il a dit « Non, je ne peux pas te donner le travail parce que j'ai entendu parler que toi, tu as collaboré avec les Allemands. » Elle ne peut pas comprendre comment ça se passe, cette accusation. Ils ont travaillé ensemble, ils ont passé un an dans les cafés Stuka ensemble, comme le pianiste, une chanteuse. Lui, il a même écrit une chanson pour elle.
À un moment donné, on vous racontait aussi que c'est Vera qui a sauvé d'une certaine manière Szpilman en lui donnant du travail dans ce cabaret. C'est encore la version, évidemment, de Vera, hein, mais on est...
Voilà, c'est très intéressant parce que je n'ai pas connu Władysław Szpilman. Il est mort avant que je me suis mis à écrire ce livre. Mais il y a un documentaire où il raconte comment il a eu le travail. Il ne dit pas la même chose. Il dit que c'était lui qui était célèbre. Ce n'est pas très vrai. C'était elle la star là-bas. Bah alors, elle dit, voilà, c'est elle qui lui a donné ce travail pour qu'il puisse survivre, pour qu'il puisse aussi gagner de l'argent pour sa famille. Il était dans le ghetto avec deux parents, deux sœurs et un frère. Ils ont tous été morts, voilà.
Est-ce que vous pourriez essayer ou tenter de me décrire le moment et la manière dont, à un moment donné, vous êtes dit de cette histoire-là, je veux faire un livre, et à quel moment est-ce que la forme particulière de ce livre est venue sous la plume ou sous le clavier?
C'est toujours, d'abord, j'ai une idée. Et quand j'ai tombé sur le personnage de Vera Gran, je ne sais pas, après un mois ou deux, de travailler, de parler, de rencontrer, de parler avec elle et de la rencontrer, je me suis dit, voilà, je dois écrire son histoire. Je savais que ça va être très, très difficile parce que c'est une femme très âgée. Et il faut vérifier tout ce qu'elle me dit parce qu'elle, de temps en temps, elle dit pas... On peut pas savoir si elle imagine ça, ou oui, ça s'est vraiment passé, ou c'est son mémoire qui la trompe, etc.
Il faut dire qu'elle est devenue paranoïaque à la fin de sa vie. C'est-à-dire c'est le début de votre roman aussi, c'est la première rencontre, la première fois où elle accepte de vous ouvrir la porte, vous entrez chez elle, et elle vit dans une espèce d'endroit qui est comme un cachot dans lequel elle s'est enfermée, et où vivent des ombres, où vivent des persécuteurs qu'elle imagine.
Oui, et le souvenir. Mais je savais déjà qu'il faut d'abord, je voudrais commencer ce livre d'une certaine manière. Je voudrais que le lecteur voit tout de suite avec qui je reste, avec qui je parle, qui raconte cette histoire. C'est une femme très solitaire, très malheureuse, qui était persécutée, parce qu'elle a été persécutée pendant toute sa vie. Alors maintenant, c'est elle qui parle. Maintenant, nous, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa vie à elle. Et c'est difficile. Et je n'ai pas promis à mes lecteurs que le livre va être gai ou facile. Ce n'est pas facile, c'est troublant. C'est très troublant parce que toutes mes rencontres avec Vera étaient vraiment... C'était très difficile pour moi, très douloureux. Parce que d'un côté, elle était... malheureuse et j'avais une certaine tendresse pour elle. De l'autre côté, elle était insupportable. Mais je savais que c'est mon devoir de l'entendre et c'est mon devoir, ça va être mon devoir d'écrire ce livre. Je ne savais pas comment le faire parce que la forme, ça vient à la fin, toujours dans ce que je fais moi. Parce que d'abord, je parlais avec elle, j'ai enregistré tout ça, j'ai pris les notes, etc. Puis après, je savais qu'il faut vérifier. Alors, je vérifiais dans les archives, mais aussi, j'essayais de trouver les témoins, les gens qui sont encore en vie, pour confronter ce qu'elle m'a dit, elle, et tout ce qu'ils peuvent me dire. Et puis aussi, il y avait des documents des ghettos de Varsovie.
Là, c'est une partie un peu de journalisme que vous faites en recoupant l'information, en recoupant le témoignage.
Voilà. Hein. L'enquête, mais, comme ça. Oui, c'est comme moi, je pense que je voudrais que ce livre se lit comme un roman policier ou, je ne sais pas, un thriller moral, quelque chose comme ça.
C'est un thriller moral, c'est une belle formule. C'est aussi un thriller de l'empathie, je trouve. Parce que vous êtes... peut-être que la fonction que vous avez ici est d'être romancière de l'histoire, c'est-à-dire, en quelque sorte, le témoin empathique des protagonistes de l'histoire, de ceux qui l'ont vécu. Vous êtes rapproché du moment où ils ne savaient pas les implications de ce qu'il faisait, comme on peut savoir aujourd'hui avec le recul ce qu'on aurait fait si on avait su, mais eux ne savaient pas ce qui se passait.
Oui, exactement. Et je voudrais aussi de poser toutes ces questions. Quel est le prix de survie et comment nous réagissions dans les circonstances pareilles? Je sais qu'on ne peut pas savoir, mais on peut en penser. Et je pense que c'est important de le faire de temps en temps. De reculer, d'essayer de comprendre. Et les mots-clés pour ce livre, c'est comprendre, c'est ne pas juger, surtout ne pas juger. Nous, aujourd'hui, dans le 20e, 21e siècle, on n'a pas le droit de juger parce qu'on peut pas dire comment nous aurions réagi à tout ça. Mais voilà, la forme, c'est, pour moi, c'est aussi c'est le plus dur, parce que j'aime bien la phase de travail, la recherche, les rencontres. Je parle avec les gens, j'essaye de comparer les témoignages. Ça, j'aime bien. Mais puis après, il faut s'enfermer et il faut écrire. Alors voilà, c'est le travail, la forme. Comment...
Alors, à ce moment-là, comment ça, à un moment donné, vous avez dit j'arrête l'enquête et j'écris. Alors oui. Comment ça s'est passé le premier moment où vous êtes retrouvé devant l'écran de l'ordinateur
horrible, à vous dire il faut. Horrible comme toujours. Mais moi, je déteste l'écriture elle-même. C'est le plus difficile. Je pense que c'est le boulot le plus difficile au monde. Mais ce qui se passait, qui était aussi très important pour mon livre, j'ai eu l'accès à l'appartement de Vera Grand après sa mort. Et là-bas, j'ai découvert le document, les lettres, les photos, très très important pour le livre. Et sans ça, le livre serait complètement différent. Et ça, c'est aussi important, c'est les hasards qui jouent. Parce que si l'appartement a été vidé comme... les gens qui s'occupaient de son héritage maudit, alors il n'y aurait pas, par exemple, le chapitre sur son mari, qui constitue des lettres qu'elle a gardées chez elle, mais elle m'a jamais parlé de son mari. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a sauvé sa vie, c'est lui qui l'a aidée, c'est grâce à lui qu'elle a survécu.
Et avec ce passage-là, on se rend compte aussi de la fragilité de la mémoire. Parce que vous avez beau interroger un témoin, même si c'est une personne âgée, il y a une mémoire qui censure, qui escamote certains éléments, quel que soit l'âge. Donc le travail de l'historien et de la romancière est d'inventer ou de reconstituer les chaînons manquants. Et là, le fait de vivre chez elle après sa mort, enfin de pouvoir avoir accès à son appartement, vous a aidé considérablement.
C'était très très important ce que j'ai découvert là-bas. Et je pense aussi que voilà, la mémoire, c'est la héroïne principale de ce livre. Comment elle fonctionne, comment on se souvient, comment on veut se souvenir ou ne pas se souvenir, et quand, et quel est le mécanisme. Voilà les deux mécanismes que j'aimerais démonter dans ce livre, c'est la mémoire et c'est les rumeurs aussi, comment ça marche. Et puis après, je savais que il faut reconstruire aussi la voix de Vera, ça veut dire les façons dont elle m'a parlé, les façons dont elle m'a traité, comment c'était nos rencontres, où ça se passait. C'est ce petit studio à Paris dans la 16e. Tout comme dans les ghettos. Moi, j'avais l'impression que je suis dans les ghettos de Varsovie.
Et c'est l'impression que vous donnez qu'elle aurait reconstitué presque une cachette du ghetto.
Oui, elle n'a jamais allumé la lumière. Vous voyez, elle a une vedette qui chantait. Chanter, ça veut dire vivre pour elle. Maintenant, elle est vieille, toute seule. Elle habite dans complète sombre comme ça. Et elle se cache du monde entier, mais toujours, elle veut en parler, elle veut raconter l'histoire.
Il y a un parallélisme très émouvant qui est ce moment où vous racontez, où vous interrogez, vous, cette fois-ci, c'est vous qui vous interrogez, à vous dire comment une femme qui était dans la lumière des projecteurs peut se retrouver là. Et vous faites une sorte de parallèle à un moment donné où c'est moi qui le reconstitue après avoir lu le livre, entre le moment où elle quitte la scène de Carnegie Hall, par exemple, et puis elle se retrouve toute seule dans sa loge. La loge est un peu aussi comme ce cachot dans lequel elle vit à Paris ou dans le ghetto. C'est un peu une prison.
Oui, tout à fait. Vous avez bien lu. Elle m'en a parlé aussi, que voilà, qu'il y a ce grand contraste entre être dans la lumière comme ça, et tout le monde m'adore, et puis toute seule, solitaire, elle a souffert aussi parce que... Il n'y avait personne avec elle. Elle ne s'est pas remariée après avoir quitté la Pologne en 1950. Elle était toujours jeune. Elle avait 34 ans à l'époque. Alors elle était jeune.
Oui, on voit des photos. Elle était très belle en plus.
Elle était très belle en plus. Et voilà, ici, elle est mais solitaire, solitaire. Elle n'a pas aidé les gens, je dois dire, parce qu'elle n'était pas très chaleureuse. Elle ne s'intéressait pas aux autres. Ça, c'est un grand problème, je pense. Elle ne parlait que d'elle-même. Et pour moi, comme écrivaine, c'était, moi, c'était le matériel, matériau pour moi. Alors ça, c'était bien pour moi, mais pour être amie avec elle, ça devait être assez difficile, parce qu'elle ne parlait que de ça, son histoire, son cas, ses malheurs, etc., etc. Alors voilà, je voudrais qu'on sent, qu'on voit, je voudrais faire quelque chose très, quel est le mot en français, sensuel, voilà, que le lecteur, on entre tout à coup là-dedans, on est là, on ventre de Vera Grand, de sa cachette, de son problème, etc. Et puis, ce qui était aussi très important, c'est de reconstruire la scène générale, ça veut dire ghetto de Varsovie, parce que c'est là où ça se passait. Et c'est pour ça ce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait, je pense qu'elle n'a rien fait d'autre que les autres qui ont survécu. Mais c'est là ce que tout s'est passé et qu'il a poursuivi toute sa vie. Voilà, cette ombre des ghettos, cette ombre du passé, cette ombre de la guerre. Voilà, et comment... Qu'est-ce que ça veut dire pour elle et pour moi ?
Agata Tutinka, on est au terme de cet entretien dont je vous remercie. Je vous remercie aussi pour ce livre, Vera Grand, L'accusé, qui démontre que le roman est un instrument d'investigation de l'histoire et que vous avez utilisé cet instrument avec l'empathie, l'amour, la tendresse que vous avez pour ce personnage et qui nous fait peut-être nous fait réfléchir davantage lorsque l'on a des jugements a priori sur des choses qui sont beaucoup plus complexes et que le roman peut rendre et restitué à la lumière. Merci, Agata Tuzinka.
Merci beaucoup et j'espère que ça va donner quelque chose, que les lecteurs vont profiter de mon livre.
J'en suis persuadée et je le recommande.
Les rencontres d'Edmond Morel.